Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le pass vaccinal obligatoire depuis aujourd'hui en Tunisie. Objectif, inciter la population à se faire vacciner. Environ 40% des personnes éligibles n'ont pas encore un schéma de vaccination complet. Nous y reviendrons avec le docteur et ancien ministre tunisien Khalil Zaouia. L'élection présidentielle en Libye, impossible à tenir vendredi prochain, c'est ce qu'indique une commission du Parlement libyen chargée du suivi du scrutin. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Pierre Henry, le président de France Fraternité. Il évoquera notamment le travail de son association pour rassembler les Français, extrait dans votre édition. La France a lancé aujourd'hui la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, une annonce du ministre de la Santé. Le pass vaccinal est en vigueur depuis aujourd'hui en Tunisie. Toute personne âgée de plus de 18 ans doit présenter ce document pour accéder aux administrations publiques, aux établissements scolaires, mais aussi aux structures de santé, aux cafés, restaurants. Idem, pour se rendre au travail, les personnes vaccinées obtiennent ce pass via la plateforme EVAX. Il est valable sous deux formes, il peut être imprimé sous format A4 ou inséré dans les smartphones. Le docteur et ancien ministre tunisien Khalil Zaouia revient tout d'abord sur la situation épidémique en Tunisie.
La situation sanitaire commence à avoir une petite courbe ascendante sur le plan du nombre de cas positifs et du nombre de décès. Le taux de positivité des tests a dépassé légèrement 5%, ce qui commence un peu à nous inquiéter. Nous ne savons pas encore si cette nouvelle variante est arrivée en Tunisie, puisque les séquençages ne sont pas systématiques, mais je pense qu'elle est déjà arrivée sans qu'on le sache. En plus, on a actuellement la période des vacances d'hiver et les étudiants tunisiens à l'étranger viennent passer leurs vacances ici. Ils l'ont certainement ramené avec eux de manière même asymptomatique, cette nouvelle variante, Omega.
Ce variant donc, Omicron, oui.
Ouais, et donc, nous avons toutes les raisons de nous inquiéter. Vous savez, ce qui se passe en Europe, c'est que nous sommes décalés d'à peu près un mois et demi à deux mois, donc c'est inéluctable avec les déplacements et les flux de personnes de part et d'autre de la Méditerranée, c'est inexorable, quoi.
Et c'est pourquoi, notamment, la Tunisie a décidé de mettre en place un pass vaccinal qui est en vigueur. Tout simplement, est-ce que vous pouvez nous dire comment cela fonctionne, comment obtenir ce pass vaccinal et à quoi sert-il ?
Ce pass vaccinal sert pour accéder aux lieux publics, cafés, restaurants, salles de cinéma, théâtre, réunions de congrès et aussi à l'administration. Ce qui va poser un réel problème, parce que d'abord, nous n'avons pas un taux de vaccination complète qui soit du niveau européen ou français en particulier. Et deuxièmement, une partie de notre population qui est la moins vaccinée, c'est celle qui a le plus besoin d'accès à l'administration. Par exemple, les retraités qui perçoivent leur pension de retraite à la poste. Et maintenant, ceux qui n'ont pas de passe vaccinal ne pourront pas accéder à la poste pour percevoir leur retraite, et ça va poser un problème. Deuxième problème, il est d'ordre logistique, puisque le site evax.tn qui délivre ce fameux passe est submergé depuis quelques jours et les gens n'arrivent pas à accéder à ce passe sanitaire et ça va poser un problème. Et certaines professions sont réticentes. Le syndicat patronal des cafés et restaurants a publié un communiqué où il refuse d'appliquer cette loi. C'est un décret-loi qui a instauré le pass sanitaire. Et donc, il y a un refus d'une partie de la société quant à l'application de ce pass sanitaire, parce que dans les quartiers populaires, les cafés n'ont pas le personnel adéquat pour lire un QR code. Et donc, il y a un problème d'applicabilité.
Et ce pass vaccinal, est-ce qu'il sera demandé dans les entreprises pour les employés ?
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais les entreprises, ça pose moins de problèmes, parce que dans les entreprises, les patrons, ils peuvent acquérir un lecteur de QR code et mettre un agent, l'agent de sécurité peut lire le QR code. Alors que dans les endroits autres, ça pose un problème d'applicabilité. Et c'est là tout le problème.
Et vous nous dites que tous les salariés tunisiens doivent être vaccinés s'ils se rendent au travail.
Oui, le personnel soignant y compris, mais les personnes qui désirent aller à l'hôpital ou ont besoin d'aller à l'hôpital, on ne demandera pas à l'hôpital un pass sanitaire. Mais le personnel soignant, oui, il est obligé d'avoir un pass sanitaire.
Mais cela concerne l'ensemble des entreprises.
L'ensemble des entreprises, ils sont en train de voir...
De santé ou non.
Même à l'échelle des institutions éducatives, les lycées, pour le personnel enseignant et encadrant.
Vous évoquiez les personnes non vaccinées. Est-ce un choix de leur part ou est-ce tout simplement lié au fait que ces personnes n'ont pas eu accès au vaccin ?
Non, le vaccin est disponible. Non, il n'y a pas de problème sur le plan de vaccination. C'est totalement délocalisé. C'est très proche du citoyen. N'importe qui peut aller se vacciner quand il veut, où il veut, quoi. Il y a un accès. Il y a une base de données qui convoque ceux qui s'inscrivent pour aller se faire vacciner et leur donne des rendez-vous. Et puis, par ailleurs, les autres, c'est ouvert. C'est des rendez-vous ouverts. Les gens vont se faire vacciner ou faire un rappel ou faire une troisième injection sans difficulté. Mais c'est une négligence. Il faut dire que depuis le mois d'octobre, le nombre de cas est devenu vraiment rudimentaire. Toutes les structures de soins n'ont plus de secteur Covid et quasiment plus de malades dans les services de réa. Donc il y a eu un relâchement de la population et des autorités qui n'ont pas continué la pression en vue de la vaccination. Voilà, c'est ce qu'on vit.
Et quel est le pourcentage aujourd'hui en Tunisie des personnes vaccinées ?
Si on parle des adultes, ceux qui étaient, on ne parle pas des adolescents ou des enfants, on est autour de 60% à avoir fait une double vaccination, un peu plus que 60%.
Alors les 40% qui ne sont pas vaccinés, de quoi seront-ils privés ? De quoi sont-ils privés ?
Ils seront privés de tout ça, théoriquement, d'accès aux administrations, tous les services publics, d'accéder au travail, d'accéder aux lieux de loisirs.
Mais cela représente un nombre de personnes considérable. Oui. Alors vous dites théoriquement, est-ce que cela veut dire que dans la pratique, cela ne sera pas vraiment effectif ou...
Oui, ça ne sera pas effectif. Mais il y a déjà je vous ai dit que le syndicat des cafetiers et des restaurateurs a refusé d'impliquer. Donc il va continuer à recevoir. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire l'État. Il va aller fermer les restaurants ou les cafés. Il risque d'avoir beaucoup de grabuge. Donc ce n'est pas évident. Il y a un problème d'applicabilité. Il y a un réel problème d'applicabilité.
Vous êtes responsable politique, vous êtes aussi médecin. Quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui aux personnes qui n'ont pas souhaité encore se faire vacciner ?
Qu'il aille tout de suite, tous les centres sont ouverts. Il faut dire que depuis quelques jours, il y a un afflux, depuis qu'on reparle de ce pass vaccinal, il y a un afflux important dans les centres de vaccination, mais il faut que les gens aillent se faire vacciner, sinon ils vont perdre tout leur droit, le droit d'accès aux services publics, à l'administration, à la poste, tous les services, et puis certains leur boulot. Donc allez-y, allez vous faire vacciner, il est encore temps, voilà.
Le docteur et ancien ministre tunisien, le président d'État catholique, Khalil Zaouia. Et Amnesty International appelle les autorités tunisiennes à sursoir à l'application de ce décret présidentiel qui rend obligatoire le pass vaccinal contre le Covid-19 dans les secteurs publics et privés. L'ONG juge que ce texte viole les droits au travail et à la liberté de mouvement comme garanti par le droit international. Pour Amna Ghelali, la directrice régionale adjointe d'Amnesty pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, les autorités tunisiennes ne doivent introduire que des restrictions nécessaires et proportionnées à la protection de la santé publique. Elle estime que les dispositions de ce texte, qui resteront en vigueur pendant 6 mois, menacent inutilement les moyens de subsistance des Tunisiens en leur infligeant, selon ses mots, des sanctions extrêmement sévères en cas de non-respect. L'élection présidentielle en Libye n'aura probablement pas lieu à la date prévue, c'est-à-dire vendredi prochain. Une commission du Parlement libyen chargée du suivi du scrutin a conclu aujourd'hui à l'impossibilité de tenir cette élection le 24 décembre. Le président de cette commission en a fait part dans un rapport adressé au chef du Parlement sans avancer de nouvelles dates. Le texte demande au chef du Parlement de reprendre ses fonctions dont il s'était mis en congé pour se présenter à la présidentielle. Cela pour relancer le processus politique et reformuler la feuille de route censée conduire le pays vers la démocratie. Hier, des miliciens armés se sont déployés à Tripoli, faisant craindre une reprise des violences alors que se profilait le report de l'élection. La marine marocaine a porté assistance à plus de 350 exilés ces quatre derniers jours au large des côtes du Maroc. Des personnes en majorité originaires d'Afrique subsaharienne, elles étaient en difficulté à bord d'embarcations de fortune. Un Palestinien a été abattu hier soir par l'armée israélienne. C'est arrivé dans le nord de la Cisjordanie occupée. Il a été abattu suite à un soupçon d'une tentative d'attaque à la voiture bélier. Il ne reste plus que quelques semaines pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Si Téhéran continue à développer ses activités atomiques au rythme actuel, voilà ce qu'indique le négociateur américain Rob Malley. Il craint une crise en cas d'échec de la diplomatie. Les négociations indirectes entre les États-Unis et l'Iran, qui ont repris fin novembre après 5 mois d'arrêt, sont à nouveau suspendus. L'ONU s'est dite aujourd'hui contrainte de réduire l'aide alimentaire au Yémen, cela faute de fonds nécessaires. Les Nations Unies mettent en garde contre une augmentation de la faim dans ce pays en guerre, ravagé par l'une des pires crises humanitaires au monde. Deux sympathisants du candidat Éric Zemmour, du candidat à la présidentielle, et bien ces deux sympathisants ont posté des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles ils s'entraînent au tir et imaginent notamment prendre pour cible Emmanuel Macron et les élus de la France Insoumise, Raquel Garrido et Alexis Corbière. Le groupe parlementaire de la France Insoumise a dénoncé dans un communiqué les menaces aussi inacceptables qu'odieuses. Les députés du parti se sont aussi dit consternés par le manque de réaction des autorités politiques du pays face à cette haine et cette violence. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Pierre-Henri, le président de France Fraternité. Il évoque le travail de son association pour rassembler les Français, notamment les jeunes, au moment où le pays est confronté à une montée du populisme et de l'extrémisme. Pierre-Henri.
France Fraternité, en un mot, agit sur trois segments. D'abord, la prévention, la lutte contre la radicalisation, contre tous les extrémismes, qu'il s'agisse de l'extrémisme politique, de l'extrémisme religieux. Et nous sommes producteurs d'un certain nombre de contenus, de vidéos que nous diffusons sur les réseaux sociaux qui atteignent pour certaines jusqu'à 1,5 million, 2 millions de personnes. Et puis nous intervenons en tant qu'association d'éducation populaire dans des collèges et lycées de France, au contact de la jeunesse. Et je vous assure que ce contact, oui, me rassure, parce que vous rencontrez chez les jeunes gens qui, à partir de la troisième, première, seconde, qui ont une véritable réflexion sur la question de l'antisémitisme, du racisme, de l'égalité homme-femme. Et je vous assure que c'est plutôt réjouissant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions qui se posent, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être vigilant, que la communauté éducative ne doit pas être vigilante, mais nous avons une jeunesse qui est formidable, et pour qui, par exemple, la question de l'égalité homme-femme sonne comme une évidence. Je suis toujours surpris de la virulence qui se manifeste dans les classes mixtes, où les filles, les jeunes filles sont très conscientes aujourd'hui, et heureusement, et tant mieux, la nécessité de l'égalité, de lutter contre un certain nombre de discriminations. Alors, après, ça ne veut pas dire que ces jeunes ne ressentent pas comme une blessure les propos qui peuvent être tenus par certains polémistes à des heures de grande écoute sur différentes télévisions. Vous savez, quand vous avez 14 ans et qu'on vous dit que vous n'avez pas le bon prénom, ça rassure pas forcément quand à votre avenir au sein de ce pays. Et donc, je pense qu'il faut rappeler que celui notamment qui a propagé cette idée qu'il y aurait des prénoms qui auraient droit de cité par rapport à d'autres, est au passage un multirécidiviste condamné pour propos racistes et incitation à la haine raciale. Et quand vous dites ça aussi aux jeunes, ben je pense que voilà, ça remet quelques pendules à l'heure.
Pierre Henry, le président de France Fraternité, invité de Pluriel à 19h et 23h, émission préparée, présentée par Loïc Barrière. La France a lancé aujourd'hui la campagne de vaccination contre le Covid-19 pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Une annonce du ministre de la Santé, la vaccination des enfants n'est pas obligatoire, elle se fait donc sur la base du volontariat. Olivier Véran précise que la dose de rappel n'est pas pour l'instant élargie aux adolescents. De son côté, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, a appelé les entreprises à accélérer le recours au télétravail face au Covid-19. Elle leur demande de se préparer dès maintenant à le renforcer à la rentrée avec une cible de 3 à 4 jours par semaine. La vague Omicron progresse très rapidement quelques jours avant Noël avec au moins 20% des cas positifs au Covid-19 qui relèvent désormais de ce variant très contagieux contre 10% le week-end dernier. Vous êtes bien sur Radio Orient, tout juste midi 16. À midi 30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour votre flash en langue française. 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.